Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
À voix nue, Bruno Meyerfeld, cette semaine avec...
Sébastien Salgado, photographe, et avec ma femme, on plante beaucoup d'arbres.
Troisième épisode, la main de l'homme. Bonsoir Sébastien Salgado.
Bonsoir.
Alors pour ce troisième entretien d'À voix nue, j'aimerais que nous revenions sur cet immense travail qui vous a rendu si célèbre, la main de l'homme. Durant 6 années, de 1986 à 1992, vous avez parcouru la planète pour montrer la réalité des travailleurs manuels, un hommage à ceux qui ont édifié la société industrielle. Alors, on ne pourra pas revenir sur tous ces voyages qui vous ont emmené chez les cultivateurs de thé au Rwanda, les pêcheurs de Sicile ou les dépeceurs de bateaux du Bangladesh, mais impossible d'évoquer cette période sans parler de votre reportage dans la Serra Pelada, cette gigantesque mine d'or à ciel ouvert en Amazonie, dans l'état du Pará, où vous vous êtes rendu en 1986. Les photos que vous avez prises là-bas ont fait le tour du monde, avec de la boue, des échelles hautes comme des immeubles, et des dizaines de milliers d'hommes piochant la terre, pratiquement nus. Sébastien Salgado, je vous ai apporté l'une de ces photos, et j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'on y voit et ce que vous avez vu à la Serra Pelada.
L'histoire de Serra Pelada, pour moi, c'était très spécial. C'était la première histoire que je faisais et dans ces grandes collections d'images qui a devenu le livre La main de l'homme. Et j'essayais de venir dans cette mine plusieurs années en avant. Quand je suis venu au Brésil, de retour, de 11 ans, réfugié en France, et c'était début de 1980 qu'on avait découvert cette mine. Immédiatement, je voulais y aller parce que c'était spectaculaire. Je voyais à la télévision, je voyais des photos, et il y avait des dizaines de milliers d'hommes ensemble là-bas. Et j'ai demandé l'autorisation, je n'ai pas eu l'autorisation, parce que c'était l'armée brésilienne qui surveillait toute l'activité dans cette mine. C'était tellement d'hommes, c'était à peu près 50 000 hommes ensemble, qu'il fallait les regarder de très près pour éviter d'avoir un soulèvement ou un problème social majeur avec des communautés indigènes, n'importe. Et comme j'avais été réfugié, l'armée, le service national d'information, a nié mon autorisation de venir là-bas. Ils me trouvaient en subversif et donc ils ne m'ont pas autorisé. J'ai essayé en 81, 82, 83, 84, 85, pas d'autorisation. En 1986, quand j'avais déjà conçu avec Lélia le travail La main de l'homme, je voulais là vraiment y aller à la Serra Pelada parce que je voulais avoir ces travailleurs en exploitant l'or dans cette mine dans la manière que ça a été. Là, j'ai eu une chance énorme parce qu'exactement en 1986, la mine a passé à l'administration de la coopérative créée pour gérer ces travailleurs. C'était une coopérative de travailleurs et de propriétaires de concessions. Là, ils m'ont autorisé à venir. J'ai eu beaucoup de chance parce que si j'aurais venu avant, j'aurais venu comme n'importe quel autre photographe ou cameraman. Il louait un avion à Impératrice ou à l'état de Maranhão, c'est une partie proche de l'état de Pará. Un petit porteur, une heure de vol, ils étaient dans un petit terrain d'atterrissage proche à la mine. Ils arrivaient le matin, ils passaient la nuit, il fallait décoller avant 16 heures. Pour arriver avant le coucher du soleil, les petits avions ne peuvent pas voler la nuit. Et les gens passaient une journée. Et là, j'ai une autorisation, je me suis préparé, j'ai rencontré un propriétaire des concessions, que c'était un compère de mon père, que c'était un fermier de ma région, qui avait tout claqué, tout vendu, pour acheter une concession là-bas. Il m'acceptait venir vivre avec ces hommes. Ils vivaient sous un bâche qui faisait peut-être une quinzaine de mètres de long pour 7-8 mètres de large. Et là, en bas de ça, c'était un campement où abritait une quarantaine d'hommes. Ils m'ont donné un petit coin, j'ai installé mon hamac, j'ai amené un sac de riz, un demi-sac d'haricots noirs, un sac de viande séchée au soleil, de carne seca, comme on appelle au Brésil. J'ai amené à manger, j'ai mélangé ce que j'ai amené avec ce qu'ils avaient à manger, et j'étais admis dans cette petite communauté. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler dans cette mine. Pour moi, c'était un spectacle unique. D'avoir, quand je suis venu, il y avait à peu près 52 000 hommes ensemble. Les femmes étaient interdites pour pas avoir de bagarres. Il y avait des femmes à une trentaine de kilomètres de là, mais des prostituées. Et c'était très spécial. Aucune sécurité, aucune règle de protection. Et on a l'impression qu'on a une addition d'esclaves quand on regarde ces images. Mais pas du tout. Tous ces gars, ils venaient pour l'or. Et ce que c'était intéressant, c'est que, par exemple, la concession des compères de mon père, ils étaient une quarantaine. Il y avait ces qui creusaient, ceux qui transportaient les cailloux, la terre, jusqu'au jour qu'ils trouvaient l'or. Quand ils connaissent la terre, les orpaillères, et quand on s'approche d'or, les minéraux changent, la couleur de la terre change, tout change. Là, ils commencent à collecter la terre dans des sacs très propres, pas les sacs pleins de boue qu'on se met sur le dos, comme on voit sur les images, des sacs très propres, et là, on collecte tout. Jusqu'on traverse les filons, et là, arrive un moment qu'il n'y a plus d'or. À ce moment, chaque personne qui travaillait là-dedans, qui recevait un tout petit salaire, qui recevait l'alimentation, c'était très basique, ils avaient droit à choisir un sac. Et dans ce sac, ils pouvaient avoir 300 grammes d'or, comme ils pouvaient avoir 2-3 kilos d'or. Et ces gars étaient là pour acheter leur indépendance. Parce qu'avec cet argent, ils pouvaient acheter un camion, ils pouvaient acheter un petit hôtel, une petite ferme. Ils créaient l'indépendance. Donc, ils venaient pour ça.
Et justement, Sébastien Salgado, il y a cette photo extraordinairement célèbre d'un homme presque nu, noir, tenant le fusil de ce qui ressemble à un gardien de la mine. Je vous présente cette photo. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette scène?
C'était un endroit très dur, très violent. Et comme les hommes, ils n'avaient pas de femmes. Donc là, il y avait un manque de douceur, un manque de cette gentillesse que l'autre sexe apporte dans la relation. C'était très dur comme relation. Et très dur parce que c'était la police militaire d'État de Pará, c'était une police très violente, très dure, celle qui maintenait l'ordre dans la mine quand l'armée avait parti. Et donc, dans cette photo, si on regarde bien l'image, on voit que ces travailleurs, ils tiennent les canons du fusil des soldats. Et si on regarde bien en bas du canon de fusil, on voit que les soldats déjà ont un revolver à la main avec les doigts à la gâchette. Heureusement, pour moi, j'étais en face quand c'est passé, parce que ça durait très peu de temps. J'ai pu faire des photos, une c'est celle-là. Mais quelquefois, les policiers tuaient. Ils tuaient. Parce qu'il avait le pouvoir de tuer. Ici, c'était la vraie lutte des classes. Les travailleurs, il était pauvre, il était là, mais il attendait sa richesse. Il était un riche en puissance. Il regardait les policiers comme un laquais de l'État. C'était un pauvre type. Et les policiers, ils représentaient l'État. Il avait les armes, il avait les pouvoirs. Et donc, c'était la vraie lutte entre ces deux classes. Et quand les policiers tuaient, regarde autour de l'image la quantité de cailloux qu'il y a par terre, il était lynché, il était tué par les autres. Et donc, c'était quelque chose d'une violence et très spéciale, cette mine.
Vous avez eu peur, Sébastien Salgado, pour votre propre sécurité?
Non,
que
pas
ce soit sur les
seconde.
Échelles ou sur...
Non, pas peur. Et les conditions étaient très risquées. On avait, par exemple, des échelles qui faisaient 40, 50 mètres de haut, pleines d'hommes, pleins de sacs. Donc, on avait des tonnes de poids sur des échelles très faibles. Ça pourrait casser et amener 30, 40 mecs au désastre. Tu vois? Et donc, je montais, je descendais là aussi. Non, je courais pas les risques. J'étais jeune, je descendais comme il montait une échelle. Et après, il descendait en courant dans un plan très incliné. S'il descendait pas courant, en courant, il tombait. Et donc, moi, je faisais la même chose. J'étais très actif, j'avais mes caméras, j'étais là autour d'eux, je vivais avec eux, je mangeais avec eux. Et donc, pour moi, c'était quelque chose très spécial. J'ai presque remercié aujourd'hui l'armée de ne pas avoir donné l'autorisation avant, parce que à ce moment, j'ai pu passer du temps et faire les images qui a permis d'avoir encore du travail sur ces gens.
Alors, Sébastien Salgado, impossible d'évoquer cette période sans parler d'un autre voyage très fameux au Koweït. Nous sommes en 1991, dans le désert. 600 puits de pétrole sont en feu, incendiés par Saddam Hussein au terme de la guerre du Golfe. Un paysage d'apocalypse avec des geysers d'essence, de gigantesques colonnes de fumée et des pompiers qui tentent d'éteindre les brasiers. Quand soudain, surgit des flammes dans une Toyota Land Rover, un homme, taille moyenne, cheveux clairsemés, moustache proéminente, chaussures jaunes vives et un chapeau de pêcheur en coton rose qui court d'un incendie à l'autre, appareil photo à la main. Cet homme, c'est vous, Sébastien Salgado, vous avez alors 47 ans. Que faites-vous dans cette galère?
J'ai voulu faire cette histoire. J'ai travaillé sur le pétrole au Venezuela pour le projet La main de l'homme, un projet sur les travailleurs. Et immédiatement, quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, j'ai téléphoné au New York Times, j'ai dit, il y a une grande histoire à faire. Pas la guerre. Saddam va être battu. On est en train d'organiser une expédition planétaire contre Saddam Hussein. Et il est en train de mettre feu à ce puits de pétrole. Ça va être le moment de couper les flammes de ce puits de pétrole et changer la destruction qu'ils sont en train de faire à la dynamite. Et Kat Ryan, qui était l'éditeur du New York Times, elle m'a dit, Sébastien, tu crois? Elle s'est moquée un peu de moi et tout. Et ça passait 2-3 mois. J'étais au Koweït en train de faire l'histoire pour le New York Times. Pour moi, c'était quelque chose de spectaculaire. C'était énorme de voir 600 puits de pétrole en feu. De voir quelquefois une région où ça faisait nuit 24 heures pendant 3-4 jours, parce que c'était des fumées tellement épaisses que le soleil ne passait pas. Et quelquefois, il y avait un coup de vent, le nuage ouvrait, et le soleil passait dans un coin, dans un autre. C'était comme travailler dans un théâtre de la taille de la planète. Très dangereux. Il y avait tous ces puits qui... Quand on coupait les feux, il fallait changer la tête des puits qui était complètement détruite à la dynamite par les troupes de Saddam Hussein. C'était la plus grande lutte pour ces hommes de changer ces têtes, parce que d'abord le bruit, quand on coupait les feux, quand il y avait les feux, on ne pouvait pas approcher parce que la température était extrêmement haute. Et quand on coupait les feux, là, le bruit, c'était comme travailler derrière la turbine d'un jet. Regarde, je porte des appareils sur mes deux oreilles aujourd'hui. Mon audition était détruite là-bas. Parce que ça faisait tellement de bruit qui, après qu'on quittait le soir, on passait 2-3 heures sans rien écouter. Après, ça revenait l'audition. Et quand je venais de Kuwait, mes deux oreilles étaient endommagées à jamais. Mais c'était très dangereux, parce que le pétrole, dans cette région du monde, c'est un pétrole très léger. Il est presque de l'essence. Regarde, il n'y a qu'un bassin pétrolier dans le Moyen-Orient. Il commence en Iran, il descend sur l'Arabie Saoudite, sur les Émirats, et quand ça arrive à la pointe du bassin, la pression est tellement forte qu'il sort de la terre à une pression énorme. Ce pétrole, le plus pur de tous les pétroles, il sort presque un jet d'essence. Et là, pour travailler, les pompiers spécialisés à couper le feu de ces puits de pétrole et changer les têtes, ils amenaient avec eux un énorme camion citerne. Et au moment qu'ils travaillaient, ils jetaient de l'eau sur le pétrole qui sortait, parce que les instruments touchant sur l'autre, ils produisaient une étincelle. Ils mettaient feu à tout ça. Et donc, en mettant de l'eau, on réduisait la teneur en ignition de pétrole. Il y avait un bon mélange d'eau. C'était de l'eau qui tombait dessus, mélangée au pétrole. Mais quelquefois, en travaillant, un instrument mettait feu et les gaz, il explosait à 15-20 mètres sur notre tête comme un tir de canon. Il part une boule de feu qui brûlait là-haut. Mais nous, on ne brûlait pas parce qu'on avait de l'eau dessus. Moi, j'étais couvert de pétrole comme les gars. Parce que pour travailler proche, j'ai travaillé avec des optiques de 35 et 60 mm. Mon 28 mm qui avait des éléments de plastique, j'ai m'approché trop des flammes. Il a fondu le plastique, donc mon optique était morte. Et donc j'ai travaillé très proche de ces travailleurs. C'était fantastique parce qu'on avait une pluie de pétrole sur nous. Mais le pétrole est très lourd, il tombe vertical. Et pour changer mes optiques, je mettais de parasoleil, donc il n'y avait pas de pétrole sur l'optique. Mais au moment d'échanger la pellicule, c'était le problème. J'avais un sac avec 2 litres d'essence, avec un rouleau de papier de cuisine, de ces papiers en rouleau. Je mettais de l'essence sur le papier de cuisine, je nettoyais ma main, je nettoyais l'appareil photo, et je prenais les pellicules en couvrant avec mon corps, je les changeais, je continuais à travailler. Mais l'essence qu'on met sur la main, l'essence finit pour ressécher complètement la peau. Après 10-15 jours que j'étais là, tous mes joints étaient blessés. Il fallait que j'aille d'antibiotiques sur la main parce que ça me donnait d'infections sur la main. C'était une chose tellement incroyable, dramatique et spéciale que je crois que c'est l'endroit le plus terrible et spécial que j'ai travaillé dans toute ma vie.
Et Sébastien Salgado, il y a ces photos intrigantes que vous avez prises là-bas au Koweït de chevaux. J'aimerais que vous, au milieu des flammes, j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de ces chevaux.
J'avais loué en Arabie Saoudite un Toyota Land Cruiser 4x4, une autre voiture, une grande voiture. Et j'ai tourné avec cette voiture parce que quand on coupait le feu, le pétrole, on prenait quelquefois des semaines pour changer une tête et ça créait des lacs de pétrole partout. Donc on créait la boue de pétrole, il fallait passer dedans, donc j'avais une très bonne voiture. Et j'ai circulé, j'ai travaillé sur les puits, et un jour, en circulant, je vois un long mur, très bien fait. Je suis ce mur, j'arrive sur une portière, très très bien travaillée, avec des dessins de la famille royale. Et c'était fermé, mais comme tout était abandonné, j'aimais les pare-chocs avant de ma voiture contre ces portes. Je mets 4 tractions sur les 4 roues. Je presse et j'explose la porte. Elle ouvre, je rentre. Et là dedans, que ça devait être un paradis, parce que c'était un oasis avec des petits lacs, avec des oiseaux pollués. J'ai des photos des oiseaux complètement couverts. On avait ces chevaux qui étaient devenus fous, parce que toute l'herbe qu'il y avait là dedans, elles étaient couvertes de pétrole. Ici chez vous, manger l'herbe mélangée au pétrole. Après que j'ai parti, j'ai dénoncé un groupe de vétérinaires que j'ai rencontrés à Kuwait City. Ils sont venus pour assister ces animaux. Et là, ils ont découvert que tous ces animaux avaient la leucémie. Parce qu'en mangeant le pétrole, ça rentrait dans le courant sanguin et ça les détruit. Ils ont dit tuer tous ces chevaux. Que c'était chevaux qui coûtaient des millions de dollars chaque chevaux. C'est des chevaux de pure race arabe, des chevaux incroyables. Et donc, ce qui devait être un paradis, j'ai trouvé un vrai enfer là-dedans avec plein de chevaux fous, des oiseaux complètement détruits, pollués. C'était une catastrophe.
Alors, Sébastien Salgado, la main de l'homme, c'est l'époque où votre travail prend une dimension mondiale, universelle, parfois presque encyclopédique. Pour la main de l'homme, vous avez parcouru plus de 40 pays. Vous avez dit, longtemps on a cherché une langue universelle, comme l'espéranto, mais le langage universel, c'est l'image.
Écoute, dans l'univers de la créativité, il n'y en a que des arts qui n'ont pas besoin de traduction. C'est la musique et la photographie. Ce que j'écris en photographie au Koweït, on peut les lire au Brésil sans traduction, en Chine, partout. Donc l'image, on a une transmission directe et d'une émotion. C'est très difficile de réaliser une image. J'ai dit, je crois, dans l'émission d'hier ou d'avant-hier, c'est toi-même, Bruno, qui m'avait cité, c'est que j'avais parlé au Monde il y a quelques années, faire la photo, c'est comme marcher sur les fils d'un couteau. C'est exactement ça. Il ne faut pas faire la photo avant, il ne faut pas la faire après. Il faut être tellement intégré dans le phénomène photographique que tu pressens le moment qui va voir les plus hauts de la tangente des phénomènes qui est en train de se passer avec nous. Quand les tangents est zéro, on est dans le maximum. On est tellement intégré qu'on est capable de prévoir, dans cette fraction de seconde, on capture cette image.
Et alors, la main de l'homme, Sébastien Salgado, c'est aussi peut-être une photographie plus engagée que dans votre travail précédent, Autres Amériques. Certains ont parlé de vous à l'époque comme le Gramsci de la photographie. Est-ce que plus sérieusement, vous pensez pouvoir changer le monde par vos photos ?
Non, je ne peux pas changer le monde par la photo. La photo tout seul ne peut pas changer le monde. La photo, elle peut contribuer à changer le monde en participant avec les organisations humanitaires, avec les organisations environnementales, avec tout un système d'information. Elle a une petite partie là-dedans, donc elle peut aider. Elle tout seul, je ne crois pas qu'elle change. Mais j'ai eu, pour faire ce travail, la main de l'homme, regarde bien, j'avais été un économiste. Et l'étude d'économie que j'ai faite, ce n'est pas de la microéconomie, ce n'est pas l'économie d'entreprise, j'ai fait la macroéconomie. Ça m'a aidé énormément à avoir une capacité d'analyse, une capacité de synthèse et de comprendre la société que je faisais partie d'elle. Il y a un moment, au début des années 80, qu'on a commencé à voir des pans d'industrie entiers qui commençaient à disparaître. L'industrie sidérurgique à l'est de la France, c'était quelque chose d'extrêmement important. Et là, j'ai vu que c'était un moment historique qui est en train de disparaître. La première grande révolution qui a commencé à Manchester, au début du 19e siècle, est en train de prendre fin. Une nouvelle révolution se passait avec l'arrivée des nouvelles technologies, des machines intelligentes dans la ligne de production, les robots qui remplaçaient les hommes. Et là, j'ai dit, c'est le moment de faire un grand portrait de ces moments historiques, parce que ça va devenir une archéologie de l'époque industrielle. Et c'est là qu'on a conçu ce travail pendant 6 ans. J'ai cherché, là où je pouvais chercher, l'idée du prolétariat. On a eu une réunion avec certains copains, vous savez, c'était Jean Lacouture, René Lefort, Jean-Marcel Bougreau, Monsieur Alguerrand, on s'est réunis tous chez nous avec de bonnes bouteilles de vin. Et Lélia a fait un très bon dîner et on a discuté. Et finalement, après qu'on a regardé toutes les images qu'on avait déjà, tu sais, on a sorti les titres des livres de Hervé, Les Prolétaires. Et là, tout le monde est parti. Là, il est des bandes de cons. Qu'est-ce qui va acheter un livre qui a un titre prolétaire? Non, il faut trouver un autre titre. Et finalement, c'est de trouver ce titre un peu pompeux qui s'appelle La main de l'homme. Et La main de l'homme, c'est vrai, qui a fait un impact incroyable dans le monde.
Et alors, justement, Sébastien Salgado, grâce à ce livre, La main de l'homme, vous devenez un photographe extraordinairement célèbre dans le monde entier. Quel rapport personnel entretenez-vous à la célébrité, à la popularité et au succès?
Aucun. La célébrité, ça vaut rien. Elle te gêne beaucoup plus qu'elle t'aide, tu vois. Et je crois très sincèrement que la plus grande qualité qu'on puisse avoir dans la communauté des humains, c'est l'humilité, tu vois. C'est ça une grande qualité. Je dépends des autres pour faire mon travail. Je dépends de tout le monde. Moi, au moment de presser les boutons, je suis seul. Mais au moment de concevoir mon travail, je dépends de Lélia, je dépends de mon équipe. Au moment d'y aller, je dépends des autorisations. Au moment de m'installer, je dépends de la communauté. Donc, je dépends de tout le monde. Mon image, c'est le résultat du travail de beaucoup de monde. Au moment de présenter mon travail, je dépends de tellement de monde, je n'ai pas droit à aucune prétention sur ma profession. Quelquefois, les gens me disent, Sébastien, tu es un artiste. Je dis, je ne suis pas un artiste, je suis un photographe. Parce qu'être un photographe, c'est un privilège énorme. Seulement les photographes peuvent être là où se passent les choses. Toi, Bruno, tu es un journaliste. Quelquefois, tu vas là-bas, mais quelquefois, tu interviews les gens qui ont été là-bas, ils te racontent. Mais un photographe, s'il vient par la pointe où ça se passe les choses, il n'a pas l'image. Et c'est un privilège de pouvoir y aller. J'étais dans plus de 130 pays dans ce monde et j'y étais vraiment, j'étais au cœur de ce pays, au fond de ces communautés. Et j'ai eu le privilège de connaître des milliers de communautés, de m'intégrer à elles. Et je crois que c'est ça, il n'y a pas de place pour aucune reconnaissance en plus que celle-là.
Nous arrivons à 1994, Sébastien Salgado, vous vivez une forme d'apothéose, mais une période plus difficile, plus douloureuse s'annonce pour vous, marquée en particulier par votre expérience au Rwanda et au Congo. Mais de tout cela, si vous le voulez bien, nous parlerons dans le quatrième épisode. Alors, merci. Et à demain, Sébastien.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Laurent Macchetti, réalisation Guillaume Baldi, une série de Bruno Meyerfeld, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.